ça peut évoluer seulement vers le pire. Et j'ai fait une grave erreur que je regrette beaucoup, mais je l'ai faite. J'étais trop curieux, j'ai lu sur Internet tout ce qu'on peut trouver dans des revues médicales sérieuses, l'évolution de mes maladies, surtout du syndrome parkinsonien. Et après, j'ai amèrement regretté de l'avoir fait parce que ce que j'ai trouvé, ça ne fait pas plaisir.
On a tendance à l'imaginer un peu linéaire. On naît, on vit, on meurt. Mais dans ce grand intervalle qu'on appelle la vie, le chemin n'a rien de rectiligne. On aime, on pleure, on trébuche, on se relève, on bifurque, on affronte, on rit, on apprend. Sur cette route sinueuse, notre seul véhicule, c'est lui, notre corps. Celui qui nous porte et nous déploie, celui qui nous permet des exploits, que ce soit de donner la vie ou de gravir l'Everest. Mais parfois, sa santé s'enraye et elle vacille. C'est alors que s'ouvrent une ou plusieurs parenthèses, entre lesquelles il va falloir l'écouter, comprendre les maux qui l'affaiblissent, les traiter ou apprendre à vivre avec, mais quoi qu'il arrive, un peu autrement que sans. Un sentier sinueux qui surgit au milieu de la route et sur lequel on vous emmène avec nous dans ce podcast. Que se passe-t-il quand la maladie, l'accident ou même des événements plus joyeux comme la naissance ouvrent une parenthèse dans nos vies ? Ce podcast vous est proposé par Hirst London, les cliniques Boisserre et Cécile et le quotidien 24 heures. En Suisse, 20% de la population vit avec une maladie chronique et cela s'accompagne souvent de complications supplémentaires qui peuvent impacter profondément la qualité de vie. Après avoir vécu sans grand problème de santé, Radou découvre qu'il est atteint d'un diabète depuis 10 ans. Depuis, les pathologies s'enchaînent et se chevauchent, bouleversant totalement son quotidien. Atteint notamment de la maladie de Parkinson, cet historien de l'art qui a toujours été très indépendant et autonome vit aujourd'hui en fauteuil roulant.
Ça a commencé relativement tard parce que pendant 30 ans, je n'ai pas coûté mon assurance en centimes parce que je n'en avais pas besoin. Mais j'avais commencé à avoir des symptômes neurologiques, ça veut dire des douleurs, des problèmes d'équilibre et j'ai consulté tard parce que j'avais un blocage. Finalement, ils ont découvert que j'avais un diabète d'au moins 10 ans. Et ce diabète qui n'était pas traité a provoqué une neuropathie diabétique. La neuropathie diabétique a provoqué à son tour un syndrome parkinsonien. On a 37% de chances, si on a une neuropathie diabétique, de développer ça. Et c'était mon tour.
La docteure Plamena Tacheva, spécialiste en médecine interne générale à la clinique Cécile.
Avec le vieillissement de la population, les patients vivent plus longtemps, sont soignés avec une qualité des soins qui est de plus en plus élaborée en pluridisciplinaire. Donc il a des maladies typiquement chroniques et évolutives qui touchent une panoplie d'organes. On peut parler par exemple du diabète qui a plusieurs implications sur d'autres organes, le système neurologique et puis avoir des conséquences sur le plan infectieux. Typiquement, les patients sont fragilisés par cette maladie chronique. Et ensuite, il a d'autres maladies du spectre, des maladies neurologiques, par exemple la maladie de Parkinson, typiquement, qui touche toute une panoplie d'organes avec des atteintes motrices, mais aussi non motrices, qu'on connaît de mieux en mieux aujourd'hui, et puis qui entraîne une dépendance des patients avec des inaptitudes au niveau psychosomatique, au niveau social, et puis qui entraîne une dépendance en fait qui altère énormément leur qualité de vie.
Le premier symptôme, vraiment, je l'ai eu très, très tard. C'était une petite gêne, une orteille, et qui s'est développée. Donc, en effet, ça se développe, la neuropathie diabétique, ça veut dire la myéline qui est l'emballage, pour m'exprimer comme ça, des nerfs. est attaqué depuis le commencement de la maladie. Donc c'est un processus parallèle. Le diabète n'a pas de traitement. C'est une maladie qui a été étudiée, qui est très, très, très répandue. D'après certaines statistiques, une personne sur 8 souffre de diabète plus ou moins grave. Mais elle n'a pas de traitement, elle ne guérit pas. On peut l'équilibrer par contre. Mon grand-père maternel est mort à 54 ans. Maintenant, deux générations après, j'ai 72 ans et je vis encore.
Les organes sont liés et puis souvent le dysfonctionnement d'un organe entraîne le dysfonctionnement d'un autre. Dans quelle temporalité, des fois c'est très variable, donc c'est pas un processus linéaire et puis il faut tout mettre ensemble pour essayer de comprendre le processus de dégradation, par où ça a commencé, quelle est la conséquence et quelle en est la cause, et typiquement choisir le meilleur traitement dans le meilleur délai, faire intervenir des spécialistes de différentes spécialités médicales typiquement, et puis souvent c'est une question de prise en charge globale et dans le même temps de plusieurs organes qui dysfonctionnent.
Les facteurs de risque de développer une maladie chronique dégénérative sont très nombreux et difficiles à identifier isolément.
Tout ce qui vient du milieu de vie, de l'exposition professionnelle, qui vient aussi du système immunitaire, de l'hérédité, de l'anamnèse familiale est très important dans ces cas-là. Mais souvent, tous ces facteurs se chevauchent tellement qu'après, c'est difficile de faire la part des choses. Des fois, c'est même difficile d'établir le facteur déclenchant, vraiment. Et on est de plus en plus confronté à des facteurs de risque, en effet, qu'on prend, qu'on court, même si on essaye de vivre le plus sainement possible.
Pour Adou, la vie s'est progressivement restreinte avec l'avancée de ses pathologies qui le confinent désormais à son fauteuil roulant. Une transition pas simple à accepter quand on a eu une vie très active.
C'est plutôt les complications du diabète qui ont fait que ma vie maintenant est très différente de la vie d'antan. La vie d'antan, on faisait du vélo, mais on partait plus de 10 jours, par exemple, avec les sacoches et tout ça. On a fait la vallée du Danube, la Hollande, la Bretagne, et ainsi de suite. Ça me manque beaucoup, par exemple. Ma femme et moi faisons un couple qui était connu pour le rock and roll et le tango, par exemple. Donc il y a des choses qui sont restées juste dans ma mémoire.
La progression, elle peut être plus rapide comme elle peut être assez lente. Souvent, c'est des bradykinésies, ce qu'on appelle, c'est-à-dire un ralentissement des mouvements volontaires, accompagnés, qui sont souvent asymétriques, en fait, accompagnés soit d'un trémor, des tremblements au repos involontaires, soit d'une rigidité. Et les patients se retrouvent avec des troubles de la déglutition qui entraînent souvent des affections respiratoires à répétition. Ensuite, des troubles de la posture avec une instabilité, des troubles de la marche et des chutes typiquement. Des multiples patients se retrouvent en phase avancée de la maladie dans une chaise roulante, malheureusement avec des scolioses, des troubles du rachis cervicales et dorsolombaires, et ils se retrouvent aussi souvent en isolement social de par leur dépendance, mais aussi à cause de l'affection de la maladie qui fait une hypomimie, donc une diminution dans l'expression faciale des patients qui peut les forcer à se renfermer sur eux-mêmes, déjà qu'ils sont aussi souvent atteints d'une démence ou d'une dépression. Donc ça peut être très très difficile à gérer.
Une source de réjouissance, c'est mon travail. Je travaille chaque jour pratiquement parce que j'ai la chance d'avoir une profession qui me permet de travailler individuellement. Je suis historien de l'art. Je n'ai jamais cessé de travailler. Cette partie de moi, ça n'a pas été altérée. Le physique, oui, mais La tête, ça va encore. Mon dernier livre a été publié en 2022. J'ai fait relativement beaucoup de choses qui ont eu relativement beaucoup de succès. Et ça m'a beaucoup aidé. J'ai fait beaucoup d'écriture, ça veut dire un livre, des catalogues d'exposition à Amsterdam, à Paris, en Pologne, etc. Maintenant, je travaille sur un projet d'exposition, je ne peux pas vous dire lequel. Je suis assez avancé, mais comme rien n'est signé, je dévoilerai ça au moment opportun. Maintenant, avec l'Internet, ça m'aide beaucoup. Chaque acte devient une complication. Par exemple, aller à la bibliothèque. J'ai enseigné 10 ans l'histoire de l'art à l'Université de Lausanne. J'étais à quelques centaines de mètres de la bibliothèque. Et aller à la bibliothèque, ça posait aucun problème. Maintenant, à cause de mon état physique, c'est un grave problème. Et la bibliothèque n'est pas faite, même si j'arrive à la bibliothèque là-bas, pour aller d'un étage à l'autre, il y a des escaliers, par exemple. Et le circuit ne permet pas. J'achète beaucoup plus de livres qu'auparavant, on a partout des livres. Et avec ça, je peux travailler.
C'est toujours une très bonne idée de continuer de s'occuper de ses passions, de d'être actif physiquement, mais aussi intellectuellement. Et c'est excellent quand le patient nous apporte ce soutien dans la prise en charge. Je trouve qu'on est soulagé, on peut que l'encourager. L'idée, c'est de mettre aussi toute une équipe à la maison d'ergothérapeute, de physiothérapeute, adapter son domicile à ses besoins et faire en sorte à ce qu'il puisse continuer ses occupations. Pour les malades de Parkinson, par exemple, on met en place aussi des logopèdes, logopédistes, je ne sais pas, on sait, qui peuvent améliorer ou maintenir la fonction de la voix, parce que souvent ils sont aussi altérés dans ces fonctions-là, qui peuvent travailler pour des troubles de la déglutition, faire en sorte à ce qu'ils gardent leur alimentation naturelle. Et puis, je trouve que oui, on a encore beaucoup de moyens pour maintenir les fonctions motrices, mais aussi non motrices d'un patient atteint qui est motivé à vivre, à se battre et à profiter pour augmenter sa qualité de vie pour la vie qui lui reste. Vraiment, j'en ai des patients qui ne lâchent rien, en fait, qui profitent tous les jours avec beaucoup de soutien. Par contre, ça, il faut qu'ils l'acceptent, que ce soit des caractères qui soient aptes à accepter du soutien, mais qui, malgré tout, profitent de la vie. Et je trouve que c'est inné à chaque personne de savoir comment c'est possible de gérer ces situations-là. C'est imprévisible et je trouve que c'est remarquable, des fois, la force de caractère qu'on peut rencontrer dans ces situations-là.
Mon dernier livre, je l'ai écrit avec un seul doigt de la main gauche, parce qu'à la main droite, j'ai un trémor 4 sur 4, c'est le maximum possible, malheureusement. Et maintenant, c'est très difficile d'écrire, même à l'ordinateur. Je ne peux plus écrire à la main depuis quelques bonnes années déjà. J'ai fait une thèse et je suis devenu illettré après parce que je ne peux plus écrire à la main. Et maintenant, écrire un mail est devenu problématique à cause de trémor de la main gauche qui s'installait aussi. Mais j'étudie à des systèmes d'utiliser un ordinateur avec les yeux maintenant parce que la maladie avance. Je suis obligé de faire une retraite que j'essaie d'organiser le plus possible. C'est une retraite, comme disent les stratèges militaires devant une guerre, qui était sur des positions prévues à l'avance par la débandade.
Pour des maladies neurodégénératives. Le traitement qu'on donne depuis près de 50 ans maintenant contrôle la maladie, ralentisse son évolution, mais ne vont pas empêcher la dégradation des organes et puis le passage d'une phase plus légère à une phase de la maladie avancée.
Et la maladie a aussi des conséquences sur le quotidien.
Et on a dû réaménager toute la maison. Si vous regardez, je suis entouré d'une technologie qu'on appelle pudiquement les moyens auxiliaires dans le langage professionnel, et sans quoi ma vie serait beaucoup plus pénible. On a tout fait pour faciliter les transferts, les actes quotidiens. On a réaménagé les salles de bain. Ça devient compliqué, mais vivable. On a tout fait pour que ce soit le plus vivable possible. Je peux rester difficilement seul. Quelques heures, oui, mais pour le reste, il nous faut de l'aide. Mon esprit est toujours indépendant et il est libre. Le corps, non, mais l'esprit, oui.
Il n'a pas vraiment de formule magique pour éviter les étapes brusques dans l'évolution des maladies chroniques. Et c'est vraiment un travail de longue haleine et puis ça demande beaucoup de persistance. Puis la meilleure des choses, c'est de former autour du patient une équipe soignant de confiance avec qui il élabore vraiment une interaction privilégiée. Souvent, c'est aussi des soins à domicile qui interviennent. Alors, pour ces patients-là, ce qu'on essaye de faire, et puis on insiste énormément, c'est que la famille, l'entourage proche doit rester dans le meilleur des cas, vraiment autour pour un soutien psychologique, mais pas être impliqué dans les soins médicaux et pas devenir proche aidant, en tout cas pas tout de suite. Donner le plus possible de support à domicile, typiquement, et puis en institution, s'il a des passages, par exemple, transitoires, journaliers, comme ça, pour essayer de préserver ce lien interfamilial et puis faire en sorte à ce que les moments précieux puissent être appréciés du côté du patient, mais aussi du côté de la famille.
Radou et son épouse sont mariés depuis 46 ans. La maladie a aussi transformé leur relation.
Ça a provoqué une charge et physique et émotionnelle pour elle, qui est extrêmement lourde. Et moi, ça me pose un problème parce que j'ai pas de culpabilité là-dedans. Mais en même temps, ça me gêne terriblement qu'elle souffre à cause de moi. Je crois que ça nous a beaucoup rapprochés. Il y a notre complicité qui s'est développée. On n'était pas très loin, même avant. L'année passée, à cause d'une erreur médicale, j'avais le pronostic vital engagé plusieurs fois. On ne me donnait pas beaucoup de chance à vivre. Je suis toujours là. Et pendant cette époque-là, elle était très proche de moi, donc elle était chaque jour à l'hôpital. J'ai fait 6 mois d'hôpital.
Les patients sont souvent bien au courant, ce qui est bien en fait, du fait que la maladie progresse indépendamment de tout ce qu'on peut apporter comme soin de soutien. Et puis, comme cette maladie touche aussi beaucoup d'organes et puis qu'elle entraîne souvent aussi une démence, des troubles de l'humeur, une dépression souvent. C'est oui, difficile d'entourer les patients, d'où la nécessité de former toute une équipe médico-soignante autour pour assurer une prise en charge optimale du patient, mais aussi de son entourage. Souvent, on prend aussi beaucoup de temps avec l'entourage pour essayer d'optimiser les soins à domicile qui deviennent de plus en plus difficiles.
Ça peut évoluer seulement vers le pire. Et j'ai fait une grave erreur que je regrette beaucoup, mais je l'ai faite. J'étais trop curieux, j'ai lu sur Internet tout ce qu'on peut trouver dans des revues médicales sérieuses, l'évolution de mes maladies, surtout du syndrome parkinsonien. Et après, j'ai amèrement regretté de l'avoir fait parce que ce que j'ai trouvé, ça ne fait pas plaisir. Mais j'ai pu surmonter. Au début, après avoir fait ça immédiatement, c'était difficile de vivre avec l'idée que on peut estimer précisément ou plus précisément possible la date de sa disparition future. Elle s'est pas éloignée de moi, malheureusement, mais je l'apprivoise. Ça veut dire que j'ai la chance de mourir avant le pronostic vital décrit par la littérature ou après. Personne ne sait vraiment.
Merci d'avoir écouté cet épisode d'Entre parenthèses. Vous trouverez des ressources en lien avec les maladies chroniques et dégénératives dans le descriptif de cet épisode. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles et un commentaire sur votre application d'écoute préférée pour donner de la visibilité à ce podcast. Et surtout, n'hésitez pas, partagez-le et parlez-en autour de vous. En attendant, je vous souhaite un très bel été et nous on se retrouve à la fin du mois d'août.